Je vous remercie de votre présence à cette conférence intitulée « Faire face aux crises sociétales en construisant la résilience de son territoire ». Vaste programme. Je vous présente de suite Arthur Keller. Arthur Keller qui était venu le 13 octobre 2022 nous faire une conférence très intéressante en compagnie de Cyril Dion. Vous avez pu peut-être le suivre. Arthur est un conférencier spécialiste des vulnérabilités de nos sociétés au changement climatique et de la résilience des territoires. Jean-Michel Fabre, qu'on ne présente plus, le vice-président chargé de la bifurcation écologique. Bifurcation écologique, on y tient à ce terme au conseil départemental, ainsi que de la mobilité. Nous aurons Claire Dollet et Aurélien Mur du CEREMA qui nous feront une présentation du portrait climatique de la Haute-Garonne. Ce sera juste l'introduction. Mais avant, je vais donner la parole à Sébastien Vessini, notre président du conseil départemental, pour une introduction de cette journée. Merci à vous.
Cher Arthur Keller, Monsieur le Président de Haute-Garonne Environnement, cher Pascal Bourreau, Monsieur le Vice-Président en charge de la bifurcation écologique au sein du Conseil départemental, cher Jean-Michel, Mesdames et Messieurs les élus, vous êtes nombreuses et nombreux ce matin, élus des territoires, mais aussi mes conseillers départementaux, merci d'être présents. Cher agent public, il y a beaucoup de fonctionnaires aussi territoriaux ce matin, merci d'être à nos côtés. Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs, vos fonctions et qualités, puis chers amis, le climat n'est qu'une seule pièce du puzzle, il y a différentes systémiques qui s'emboîtent les unes dans les autres. Ces mots ne sont pas les miens, ils sont ceux d'Arthur Keller, prononcés d'ailleurs il y a 2 ans au Conseil départemental. Votre venue avec Cyril Dion avait marqué les esprits. Je suis sûr encore une fois que cette conférence formation, puisqu'on est dans un format plutôt formation, que nous organisons avec Haute-Garonne Environnement, au sein d'ailleurs de l'Assemblée plénière, magnifique salle où nous délibérons sur ces sujets, marquera encore de nouveau, que ce soit ce matin lors de votre intervention, que je sais sous forme de thérapie de choc, ou cet après-midi dans les ateliers qui vont vous être proposés. Ces échanges doivent nous permettre de nous donner les clés de compréhension de ce que nous sommes en train de vivre réellement, de poser les bons mots, le bon diagnostic, et puis aussi d'enclencher les bonnes démarches, démarches d'adaptation, parce que chacune et chacun d'entre nous, dans nos rôles de décideurs publics ou d'agents publics ou d'acteurs associatifs, nous sommes celles et ceux qui pouvons enclencher le changement à notre échelle. Il ne sera pas décidé, il ne viendra pas par ailleurs. Alors, je sais que, même si vous allez démontrer que le climat n'est pas l'unique, et je le disais en vous citant, que c'est une pièce du puzzle, aujourd'hui, bien obligé quand même de constater que la Haute-Garonne, s'il y a quelque chose qui est palpable du changement, c'est réellement déjà les effets sur la météo du changement climatique que nous mesurons maintenant depuis une dizaine d'années. Les données sont assez claires. Météo France qualifie, les scientifiques qualifient la Haute-Garonne et le Sud-Ouest comme un des hotspots du changement climatique. C'est-à-dire que ça s'emballe plus vite ici qu'ailleurs en France. Donc un des points chauds. Et on a pu le mesurer, et j'y reviendrai dans quelques instants. Cette prise de conscience, elle commence à cheminer dans les têtes de nos concitoyens. 2002-2023... ont été quand même des années références qui ont marqué les esprits. Avoir des communes dans lesquelles on est obligé de citerner de l'eau, amener des bouteilles d'eau pour approvisionner en eau potable, quand on est habitué à utiliser entre 110 et 120 litres d'eau au robinet, que du jour au lendemain on vous amène un pack de 6 fois 1 litre et demi par jour, et qu'on vous dit vous devez utiliser que cela, ça apprend des changements. C'est brutal. On a eu nos cortèges d'inondations, cortèges d'incendies, de pics de chaleur qui troublent les organismes. Cette année encore, une étude réseau Action Climat, publiée là ces derniers jours, démontre encore une fois que les activités de toutes les régions de France, finalement, on en parlait ce matin, y compris la Bretagne qui a eu du stress hydrique, bouleversent quand même l'ensemble des activités humaines. Et nous, en Occitanie, 6 millions, un peu plus de 6 millions d'habitants, on connaît maintenant depuis 4 ans des sécheresses à répétition. On voit le manteau neigeux, les glaciers complètement disparaître dans les Pyrénées et le Massif central, les fortes chaleurs à répétition, des inondations, la perte agricole. C'est ici dont est partie la crise agricole qui est une réalité. Et puis, si ce n'est pas des grandes tempêtes comme on peut les décrire médiatiquement, on est frappé par micro-événements climatiques d'une violence extrême, comme les tornades, parce que ça a été qualifié ainsi, des tornades qui ont traversé le Lauragais et le Volvestre l'été 2023, qui ont frappé l'endroit où ça passait, des vents à plus de 170 km/h, 150 km/h, qui arrachaient tout. Bon, ces phénomènes-là, très extrêmes, très hyper localisés, c'est nouveau, on doit vivre avec. La sécheresse, on entend souvent parler aussi, la fameuse fragilité de notre habitat maintenant, de nos structures béton, l'effondrement d'immeubles, les effondrements, les fracturations qu'on peut avoir sur une terrasse, une piscine, une maison qui était construite depuis des années et qui ne bougeait pas. Phénomène retrait-gonflement des argiles et des sols est un phénomène qui bouleverse aussi nos activités, des réseaux qui pètent. On a enterré, pensant sécuriser à cause du vent ou des branches, et finalement ça casse dans le sous-sol. C'est une réalité aujourd'hui qu'on doit aussi tenir compte. Sans parler des feux de forêt, l'hiver 2023, là où il devait y avoir de la neige, troisième station de la Haute-Garonne, Bourgueil, 24 hectares. En plein février, ça aurait dû être enneigé, 24 hectares de pins qui partent en fumée parce qu'il y a un incendie d'hiver d'une station de ski qui n'a pas vu un seul flocon, moyenne basse montagne, 1300 mètres d'altitude, et un feu, un incendie de forêt en plein hiver. Cette photographie, c'est celle de l'emballement climatique. C'est celui qui devient le plus palpable pour nous, en fait. Mais on a vécu d'autres changements. La crise, la pandémie, la crise sanitaire a déjà impliqué des changements partout. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire au département, et c'est d'où l'intervention qu'il y aura après moi, du CEREMA, c'est aussi avoir la photographie la plus précise de ce qui est en train de se passer déjà, ce que nous observons, et comment on peut se projeter de cet emballement climatique à l'échelle départementale. Le CEREMA, il nous accompagne maintenant depuis le début de l'année pour la réalisation d'un diagnostic de nos vulnérabilités à ce changement climatique. C'est un des aspects. Mais il est nécessaire pour bien comprendre que le changement climatique va nous faire changer progressivement aussi dans notre habitat, dans notre environnement. Et c'est à la fin de l'année qu'on le présentera, ce diagnostic de vulnérabilité le plus précis possible. On a déjà des traits de ce portrait. On voit que le climat ici, qui est un climat océanique, plutôt tempéré, est en train de basculer. En gros, c'est la pointe du climat méditerranéen qui arrive jusqu'au sud de l'Ariège, l'Aude, sud de l'Ariège, sud de la Haute-Garonne. Ça arrive par le sud. Il y a un vrai changement de bascule au pied des Pyrénées. Où Luchon, l'année dernière, était encore en déficit hydrique. Hein. C'est la reine des Pyrénées. Moins de 30% de pluviométrie, c'est assez improbable d'imaginer cela. Il y a une vraie méditerranéisation du climat, ça touche aussi Toulouse et son agglomération, une hausse généralisée des températures, 2 à 3 degrés. Météo France nous disait que la Haute-Garonne avait connu, si on regarde le pas de temps, 2000, direction climatologie du Météo France, 2000, 2014, 2023, c'est ce qu'ils ont comparé, on a eu une hausse moyenne de 1,7 degrés par an, une réalité. Si on compare les deux pas de temps, c'est plus 1,7 degrés. Bon, c'est ce qu'on projetait dans les prospectives études Garonne 2050, dans les scénarios médians. On l'a déjà vécu, études publiées dans les années 2005, 2006, 2007, sauf qu'on est déjà en train, ça y est, c'est déjà une réalité en soi. Donc ce changement aujourd'hui, si on élargit la réalité de ce que nous sommes en train de vivre, l'effondrement de la biodiversité dite ordinaire, hein, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement de nos ressources, nous font rentrer dans une crise non pas climatique, non pas humaine, non pas écologique, mais une crise auquel l'humanité est confrontée. Je ne dis pas, c'est une crise multiforme auquel nous, nous sommes confrontés. Les scientifiques appellent ça l'anthropocène, une réalité où on est confronté à ce que notre unique biosphère, nous sommes en train de la détruire, mais nous y appartenons. Donc il y a urgence à agir. On sait que c'est dans les 10 ans que nous devons prendre les décisions de transformer notre modèle de société, notre vie, notre manière de faire, de nous adapter, d'atténuer les effets, les raisons du changement climatique, de nous adapter, mais aussi de travailler à notre résilience globale pour être en capacité de vivre tous ces changements que nous sommes en train de vivre. On a 10 ans aujourd'hui, et y compris même, il y a des libéraux maintenant qui se mettent à le dire, hein, le rapport Pisani-Ferry décrit une situation où on devrait, l'humanité devrait concentrer tous ses efforts d'investissement dans ce qu'il qualifie encore, lui, de transition écologique et énergétique de notre pays et des modèles de économiques de notre pays. Alors, nous, les élus, on a des intuitions. On échange, on a des convictions, mais il faut les confronter aussi, d'une part, au regard de nos concitoyens au sens large. On ne peut pas enclencher de transformation et d'adaptation, et encore moins de mécanismes de résilience ou de sécurisation de notre vie au sens large, sans embarquer les gens, sans aller chercher des modèles d'acceptabilité, de discussion, d'influencer l'opinion. Donc il y a la nécessité de se confronter au réel des gens. Donc on a une assemblée, on a créé ici une assemblée citoyenne qui, sa première mission et le premier rapport qu'ils nous ont remis après un an et demi de travaux, ça a été un rapport sur leur vision de ce qu'il fallait faire en Haute-Garonne pour enclencher la bifurcation écologique. Excellent, hein. Ça, c'est l'intelligence collective démontre qu'on a la capacité, sans forcément avoir une expertise au point de départ, sans forcément avoir des convictions chevillées au corps en matière écologique, que l'intelligence collective, lorsqu'elle partage des constats, lorsqu'elle partage de la donnée, mais arrive à des conclusions très intéressantes et qui peuvent faire une société ensemble pour construire un avenir un peu plus, déjà d'une part lucide et d'autre part désirable. Donc on a la nécessité aussi, au-delà de la confrontation avec les citoyens et d'embarquer les citoyens, la nécessité de s'appuyer aussi sur le fait scientifique, sur les scientifiques eux-mêmes. Moi je fais partie alors, je ne sais pas si on est rare, hein, mais des responsables politiques qui assumons de dire que tout décideur public politique, s'il ne s'appuie pas, s'il ne suit pas l'avis de la communauté scientifique, condamne la démocratie. Je l'assume et je le dis. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on peut être noyé par l'opinion. Hein, vous pouvez avoir 4 soi-disant experts sur un plateau télé et qui n'ont aucune expertise dans un domaine, aucune publication, aucune recherche, et être confronté à parce que le mec il a un million de followers sur internet, parce qu'il a fait le buzz en une demi-vidéo, en 3 secondes d'un tweet qui a fait le tour de la planète, vient écraser un fait scientifique. Combien on voit d'avis, mais de tout domaine, hein, il n'y a pas que les sciences dures, qu'on appelait hier les sciences dures, tout domaine, une personne être renvoyée à « Ah, mais ça, oui, mais ça, c'est vous qui le dites, ça, c'est votre opinion. » Non, un fait scientifique, ce n'est pas une opinion, c'est un fait, c'est du factuel. Et je crois qu'on a un devoir, le politique, de réhabiliter cela. Donc pour le réhabiliter, ne serait-ce que de suivre les avis quand on le demande aux scientifiques. Voilà. Je dis cela très tranquillement et dans la plus grande sérénité. Ça enclenche une autre vision des choses. Mais par exemple, moi je vous le dis, là où le département est en maîtrise d'ouvrage, lorsqu'il y aura un avis de la haute autorité environnementale, c'est-à-dire toute la communauté scientifique qui vient poser un regard sur un projet structurant d'infrastructure qui nécessite leur avis. S'il y a un avis défavorable, le projet ne se fera pas. C'est parce qu'il n'est pas bon. Voilà. Et il ne peut pas y avoir de raison supra aujourd'hui qui vient expliquer si il est bon. Pourquoi ? C'est pas vrai. Il faut demander l'avis au sens large. Expertise environnementale, sociologique, économique du projet. Et quand les scientifiques disent que c'est une aberration scientifique, stop, on s'arrête. On s'arrête, on remet en question ce qu'on a pensé, même si ça avait été une promesse, même si ça avait été... La stratégie de renoncement dans la résilience, ça va être plus que nécessaire. Sinon, les gens ne comprendront pas. On continue à avancer vers le mur. Donc, on va se doter, chose inédite, d'un conseil scientifique qui seront tout libres de tout droit envers nous. Hein. Ce n'est pas une prestation que l'on va faire. On ne va pas payer des gens pour nous donner des avis. Il n'y a rien de pire que d'avoir un lien économique pour aller chercher, entacher l'objectivité. On va demander, comme on l'a fait pour l'Assemblée citoyenne, avoir un conseil scientifique. Donc pour l'instant, le contour n'est pas encore défini. Je ne vais pas vous dire qui y sera, etc. Mais pour avoir des avis éclairés sur des sujets, pour pouvoir avoir des échanges réguliers entre les décideurs, l'Assemblée citoyenne, mon administration, les fonctionnaires que vous êtes, participer, et qu'il puisse y avoir une caisse de résonance, toutes disciplines confondues, sciences humaines, sciences sociales, du droit, et puis les sciences appliquées, au sens hydrologue, écologue, bref, tous les scientifiques. L'idée, c'est déjà on est sur un territoire, le Midi-Toulousain, où on a toute cette richesse de laboratoires, d'universités, et puis l'idée est de les faire contribuer, participer à la prise de décision, parce que c'est des décisions majeures, on en prend, moi j'en prends tous les jours, je suis confronté à devoir prendre des décisions majeures tous les jours, et on n'est pas omniscient, on a beau avoir des convictions, moi je suis pas un homme de certitude, j'aime à le dire, ça désangoisse d'ailleurs les responsables et les agents qui travaillent ici, un président apprend tous les jours. Décider, c'est apprendre aussi tous les jours. Ça, c'est un changement de posture. On a vraiment une urgence à rendre nos territoires résilients. Pour cela, moi, j'en appelle à une vraie bifurcation écologique. Et pourquoi j'utilise ce terme ? Je vais vous utiliser une image. Je déteste le principe développement durable. Pour moi, c'est un gadget. C'est quelque chose qui avait été inventé il y a 20 ans pour continuer le système. Greenwashing, maintenant, on appelle ça. Il y a beaucoup plus de gens qui ont été payés dans la communication pour dire qu'une entreprise faisait du développement durable. Ils ont fait beaucoup plus de marketing que la réalité de transformer leurs process dans beaucoup de groupes. Bon, ça, marketing, développement durable, tout le monde a fait. Les collectivités aussi en a fait. On a payé beaucoup de gens pour dire qu'on faisait un agenda 21. La réalité de notre transformation, les agendas 21, c'est 2010. Or, c'est sur les 20 dernières années qu'on s'est mis vraiment de biais dans le mur, quand on regarde réellement, factuellement les choses. Et les transitions, c'est pareil. Je vais prendre l'image du mur et d'une voiture qui roule. Vous avez un mur en face. Vous avez beau changer le carburant de votre voiture, passer même à l'électrique, dire que de 110 km/h, vous allez passer à 30 à l'heure, parce que sur un périphérique, vous émettrez moins de gaz à effet de serre. Mais si vous restez dans la même trajectoire, vous voyez bien que le mur, vous allez le prendre dans la tronche à l'arrivée. Donc l'idée de bifurcation, c'est vraiment prendre un autre chemin. Il faut vraiment bifurquer, parce que le mur, il y est là, si on continue sur cette lancée. Cette image, elle parle de suite aux gens. C'est bifurcation écologique, tout le monde se dit, c'est quoi ce truc barbare ? Mais bifurquer, tout le monde comprend quand on conduit ce que ça veut dire. Hein. C'est on prend un tournant, on prend un virage. Il y a l'obligation de prendre ce virage. Alors, moi, je le dis, pourquoi je dis que le département, pas au sens institutionnel, mais aussi territoire, institutionnel d'un point de vue, territoire d'un autre, a la capacité d'être des territoires de sécurisation de nos modèles de vie, mais surtout de résilience, c'est parce que nous avons la taille critique. Ça ne peut pas être à l'échelle d'une communauté ou une commune. Nous avons la capacité de pouvoir fédérer un certain nombre d'acteurs. Et, nous avons déjà une réalité d'outils, de femmes et d'hommes, dont c'est le quotidien. Voilà. Le lien avec le service départemental d'incendie et de secours, les pompiers, c'est un service départemental. Hier, c'était les soldats du feu, aujourd'hui, ce sont les soldats du climat. Ils interviennent autant sur un certain nombre d'autres sujets. Et quand il y a une crise majeure, un événement, celles qui sont les plus emblématiques, heureusement qu'ils sont là, sur site, partout, jour et nuit. Nous, nous avons au département aussi la possession des réseaux, réseaux routiers. Heureusement qu'on a encore notre ingénierie et nos techniciens qui peuvent évacuer une route, déboucher des fossés, intervenir, remettre en place des réseaux. On a cette ingénierie départementale qui est encore disponible. Et on le voit bien quand il y a une tornade, etc. Qui c'est qu'on appelle ? Il y a les pompiers et il y a les équipes. Les gens pensent que c'est encore la DDE. Mais ce sont un service départemental, du conseil départemental, qui débarque. C'est pas que les agents communaux. Eux, ils sont vite démunis face à l'ampleur parfois des dégâts. Et heureusement, nous, on arrive aussi, jour et nuit. On a transformé aussi nos modèles de comment on doit travailler. Il y a ici une cellule maintenant, prévention risque majeur, dans lequel on travaille à un process de prise de décision, de commandement, de gestion de crise, qu'on n'avait pas il y a encore 5 ans. C'est des choses, c'est des travaux work in progress. Donc on est l'échelon assez intéressant. On maîtrise aussi avec le partenaire Réseau 31, les réseaux, la gestion de la ressource en eau, avec Haute-Garonne numérique, les infrastructures que nous avons bâties de très haut débit, fibre, qu'elles soient aériennes ou enterrées. Donc on s'aperçoit que sur un certain nombre d'actions, de leviers, les réseaux par exemple, on le gère à une taille critique qu'est l'échelle départementale, avec des interconnexions avec les départements voisins, et on a la ressource humaine qui peut nous permettre de construire les process de résilience mais face à des grands changements et face à des crises ponctuelles comme des événements climatiques. Donc pour moi, c'est l'échelon pertinent. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on a toutes les finances pour mettre tout en œuvre, etc., mais ça c'est un autre débat. Déjà aujourd'hui, on peut enclencher des vrais changements. Et dans les changements, je le disais, il y a s'appuyer sur les citoyens, on doit bâtir des communs. Les réseaux, je considère que c'est des communs. Donc on doit hybrider la manière de gouvernance, ce n'est pas un président seul, nous sommes nombreux des présidents, on travaille avec des gouvernances partagées avec les élus locaux, les maires que vous êtes, et c'est imbriqué avec des conseils citoyens plus ou moins dans chaque institut. Très intéressant, bâtir des communs pour avoir une gestion partagée de ces communs. La ressource en eau étant le plus bel exemple. Ce que nous avons structuré comme outil Réseau 31, le partenariat, focaliser sur un territoire, avoir un panel citoyen, s'appuyer sur de l'expertise extérieure et hybrider tout ça pour faire un plan d'action pluriannuel que l'on suit, qu'on expérimente, on a fait des choses qui sont uniques sur le bassin à Tour-Garonne, il faut en avoir conscience. L'expérimentation de réinfiltrer de l'eau de la Garonne dans sa nappe d'accompagnement en période de hautes eaux, plutôt qu'elle reparte de suite à l'océan sans briser le cycle de l'eau, de manière naturelle, réinfiltrée pour que la nappe se remonte et qu'en été, parce que la Garonne en amont, elle sert de drain à ses nappes d'accompagnement, se recharge, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on sait que potentiellement, on va mobiliser, on va avoir en réserve entre 5 et 10 millions de mètres cubes, c'est 5 à 10 fois Sivens, c'est 15 fois Sainte-Soline, et c'est un process naturel dans le sol. On ne fait juste qu'accompagner le cycle de l'eau, sans le briser. Bon, ça paraît révolutionnaire, mais ça ne l'est pas en soi. C'est simple à faire. Et surtout, à chaque territoire, chacun peut adapter ce type de technique. Bon, ça, on l'a expérimenté, par exemple. L'interconnexion d'ouvrages pour les sécuriser et qui se remplissent, ça aussi, visiblement, c'était pas révolutionnaire, mais ça a été pensé par le panel citoyen. Pourquoi vous les interconnectez pas, les petits barrages, pour faire qu'ils se remplissent mieux quand l'un profite d'abondance, permet de remplir l'autre. En gros, on a sécurisé et valorisé ce que l'homme avait déjà construit, plutôt que de dire qu'il faut en construire un autre barrage. Bref, on a diminué les tensions et améliorer cette gestion et faire en sorte qu'on évite les conflits d'usage parce qu'on a été frappé aussi par la sécheresse. Il y a d'autres sujets où il faut aller plus loin. L'année dernière, je vous avais évoqué que sur les aquifères, il fallait qu'on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, j'essaye de trouver des acteurs là-dessus pour dire qu'il y a certains aquifères stratégiques où on doit basculer dans des mesures conservatoires, considérant que ce sont des aquifères les ressources ultimes, je les appelle, qu'il faut préserver pour les générations futures si jamais on a tout caviardé. Je ne peux pas parler plus simplement. Et ça, ça veut dire qu'on doit identifier, donc le BRGM travaille avec nous pour identifier la volumétrie, les ressources, les aquifères vulnérables, ceux qui ont des potentialités, et plutôt qu'on laisse faire des trous et de l'exploitation, ben, on va essayer de rentrer dans des démarches de conservation. Donc, mon idéal pour les spécialistes de l'eau, c'est construire un schéma de sage des eaux souterraines. Parce que c'est les seuls documents de planification qui ont portée réglementaire à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'on peut créer de la réglementation. C'est-à-dire un président de structure qui présiderait ça pourrait dire « c'est interdit, vous n'avez plus le droit de puiser dedans. Je n'ai pas besoin d'une loi, d'un législateur. C'est la réglementation locale. » C'est aller loin de dire qu'on pourrait se lancer là-dedans, mais je pense que c'est les outils qu'il faut qu'on bâtisse pour les années à venir. Je sens que je suis déjà beaucoup trop long, mais il y a un sujet qui nous passionne et on l'a pris par un angle qui va vous surprendre. Le modèle de notre alimentation, de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, de la préservation de notre capacité nourricière en proximité, on ne l'a pas pris par les politiques agricoles en disant « vous devez vous convertir », on l'a pris par nos cantines. Avec le plan que j'ai annoncé il y a 2 ans, où tout le monde me regardait les yeux un peu écarquillés, quand j'ai dit il faut lancer un plan 100% fait maison, produits locaux, avec un maximum de bio dans les cantines. Bon, aujourd'hui, il y a 30 collèges qui y sont, 30 cuisiniers passionnés qui essayent de mettre que du poulet bio, du bœuf produit dans les bocages du Lauragais, du Lauragais ou les bocages du Volvestre ou le Piémont pyrénéen. En circuit court, c'est-à-dire en circuit en allant acheter des produits locaux au maximum. Beaucoup de choses changent dans les assiettes de nos collégiennes, dans ces collèges-là. Sans le savoir, ils ont 2 repas végétariens par semaine, hein, parce que vous ne pouvez pas manger de la viande tous les jours en achetant de la viande bio produite localement. Hein. Ça n'existe pas. Vous êtes obligé de rentrer dans une forme de modération. Mais on ne le dit pas. On n'impose pas de... C'est tout d'un coup, le cuisinier trouve que c'est adapté de faire comme ça, il met des légumineux, il va mettre des lentilles tel jour, il va aller chercher de la protéine un peu différemment, il va mettre 2 morceaux de fromage différents dans l'assiette en dessert. C'est ça qui se construit en fait dans l'assiette de nos enfants. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On développe aussi l'agriculture. Il y a eu de suite une expression d'un certain nombre de filières en disant « on n'est pas structuré, on n'arrive pas à répondre à votre commande » parce que ça ne paraît pas, mais c'est 67 000 repas jour qu'il faut livrer. Et 95% de nous, des enfants, sont en demi-pension dans nos collèges, parce que les parents savent qu'on y mange mieux. Donc ça, c'est un sujet qui, par exemple, transforme profondément les choses. Plutôt que de passer sur des achats groupés, de commandes publiques groupées, où on ne sait pas d'où arrivent les produits, passe par des centrales, etc., il y a une autre proximité qui se fait, qui garantit aussi du revenu, du débouché pour la production agricole, et nous, je sais qu'on est en train de transformer. Et ça, c'est travailler, sans le savoir, à la résilience, à la capacité de se passer de grands transports, de production de l'autre côté de la planète, etc., etc., etc. Je ne vais pas venir sur ce qu'on fait sur les bâtiments dit bas carbone, parce que le même jour où j'avais dit 100% bio pour la cantine, j'ai dit je veux qu'on atteigne dans tous les bâtiments que l'on construit, nous, la neutralité carbone à échéance 2035. On a livré 2 collèges, Palefica, Castelnau d'Estrées-Fonds, où on n'en est pas loin. Voilà. Tous les élus qui aimeront, tous les fonctionnaires qui aimeront le visiter, on vous présentera comment on a bâti les cahiers des charges. Et on pourra organiser, en temps non scolaire, une visite des établissements pour voir ce que ça donne. C'est faisable. On peut fixer. Et là, la commande publique, elle a un vrai rôle à jouer pour structurer les filières, faire innover, ouvrir les chakras de ceux qui font, parce que ce n'est pas que des spécialistes qui ont répondu, il y a des grands groupes, des travaux publics qui ont la capacité d'ingénierie, justement, d'aller chercher de l'innovation et de répondre aux appels d'offres. Je terminerai mon propos en disant qu'on ne peut pas bâtir tout cela sans solidarité, sans penser aussi les mécanismes collectifs d'acceptabilité, donc sans solidarité. J'aime à le dire quand je fais un peu plus de politique ailleurs, je le dis, il ne peut pas y avoir de transformation, il ne peut pas y avoir de bifurcation écologique, il ne peut pas y avoir de justice climatique sans justice sociale. Ça ne peut pas marcher. Sinon, ce ne sera que les plus riches qui qui se trouveront leur Eldorado et les autres qui subiront la canicule. On ne vit pas tout à fait la même transformation climatique à Toulouse lorsqu'on vit dans un 60 mètres carrés au-dessus du périphérique toulousain en plein été au mois d'août et lorsqu'on vit en bordure de la forêt de Boucone dans un 200 mètres carrés climatisé. On ne vit pas la canicule de la même manière ou la pollution de la même manière. Donc sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de bifurcation écologique. C'est un autre sujet, mais vous dire que là-dessus, on tente des choses. Beaucoup de travail est fait par Jean-Michel sur le logement social, sur la réhabilitation. On expérimente deux territoires où on met en place cette belle idée qu'il faut creuser et que peut-être un jour ça fera une idée nationale qui sera portée par le législateur de sécurité sociale d'alimentation avec un réseau associatif Casalim où on porte sur quatre territoires de l'expérimentation. Donc c'est en cours. Je ne suis pas capable de vous dire combien il y a d'adhésions, est-ce que ça marche, est-ce que ça sécurise une alimentation saine pour les personnes qui sont rentrées dans l'adhésion. On n'en est pas encore là. L'idée, elle a été portée par le réseau associatif. Nous, on soutient financièrement, on va le suivre. Ça fait 6 mois que ça a démarré. Je suis sûr que ça portera ses fruits. En tout cas, en tant que décideur public, on doit se poser quand même des questions majeures, hein, au-delà de simplement dire on doit travailler à la mobilité, on doit travailler à construire un projet de RER métropolitain, etc. Vous êtes des élus où on vous demande souvent de travailler à l'attractivité de votre territoire. On se vante dans nos professions de foi, quand on fait une campagne électorale, l'attractivité du département de Haute-Garonne. Bon. Il faut quand même qu'on se pose une question à cette mobilité extrême en permanence. L'Occitanie d'ici 2035 doit accueillir 500 000 habitants. La Normandie va en perdre 300 000. Est-ce qu'on pense dans ce qu'on nous décrit comme évolution climatique, de disponibilité de ressources, il est bon de quitter la Normandie et il est sain d'arriver en Occitanie? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Chaque année, imaginez que depuis 5 ans, c'est la réalité démographique. En Haute-Garonne, s'implante une ville équivalente à la taille de Blagnac, bam, qui débarque chaque année. Parce que c'est ça la réalité. Ça arrive. Deux fois Saint-Gaudens, boum boum, deux Saint-Gaudens qui se construisent pour ceux qui viennent du sud et qui ne connaissent pas Blagnac. Bon. Chaque année, boum, c'est ça l'évolution démographique de la Haute-Garonne, plus 17 000 habitants. On voit bien qu'il y a un petit problème au-delà de l'urbanisation, de trop de voitures sur le périphérique, de besoins en services publics toujours croissants, etc., etc. Il y a quand même un sujet à se poser cette question-là. Moi, je le pose, hein. Je ne devrais pas, hein. Je ne suis pas sûr de gagner mes prochaines élections quand je dis ça. Mais on doit s'interroger sur cela. Moi, je ne suis pas pour avoir des mesures coercitives, mettre des frontières et dire « vous ne rentrez plus en Haute-Garonne », ce n'est pas le sujet. Mais il faut qu'on ose dire que ce n'est pas peut-être un Eldorado d'aller chercher cette croissance-là. Déjà, il y a des activités humaines qui savent qu'ils ne peuvent plus s'installer en Haute-Garonne. Voici longtemps, dans l'Est toulousain, une entreprise, c'était Noblet le projet, de construction de panneaux photovoltaïques qui a voulu venir. Bon, il se trouve que le Sicoval et Réseau 31 étaient ceux qui pouvaient fournir de l'eau, mais on a dit ça ne va pas être possible. Il n'y aura pas la ressource en eau disponible au robinet, c'est-à-dire on ne peut pas fournir pour les traitements de surface que vous avez besoin, ils sont allés s'installer ailleurs. C'est un vrai sujet. Je ne serai pas plus loin. Pour faire accepter tout ça et montrer que ce futur lucide doit être quand même désirable, je le dis, s'il y en a qui sont des créateurs culturels, des poètes, il nous manque quand même des Aragons, des Éluards pour décrire cet avenir souhaitable. Voilà. Pour un monde du partage et de la solidarité, on a eu des poètes, on a eu des philosophes qui ont décrit, qui ont rendu ça désirable, voilà. Plutôt que la société libérale, sauvage, où on était un contre tous. On a construit le progrès social parce qu'il y avait aussi plus que des penseurs et des politiques et des combats sociaux. Il y avait aussi de la littérature, de la culture, etc. Bon, il nous les manque un peu quand même, parce que tous ceux qui pensent la transformation climatique ou l'écologie, c'est dystopique, on sait qu'on ne va pas respirer, que l'humanité se foutra sur la gueule, et qu'on va devoir respirer avec des tubas à l'avenir. C'est dystopique ce qu'on nous projette sur Netflix ou ailleurs. Donc il nous manque un peu des... Moi, je ne sais pas si vous en connaissez, Arthur Keller, et je vous laisse la parole. mais il faut en rencontrer quelques-uns. En tout cas, il faut les inciter à produire pour avoir cet imaginaire, parce qu'on va avoir besoin aussi d'imaginaire qui soit souhaitable et désirable. Merci beaucoup et bonne conférence.